Bonsoir tout le monde, mon nom est Yvon Lambert et j'aimerais profiter de l'occasion, j'ai besoin de vous autres qu'on écoute une nouvelle émission qui s'appelle « Sportnographe ». C'est fantastique. Bonne soirée tout le monde.
Bonjour tout le monde. Au menu cette semaine, on a demandé aux joueurs du Canadien de faire un test à l'aveugle avec des fromages bien de chez nous. Aussi, on jette un œil sur la toute nouvelle émission « Le réfrigérateur » de Maxime Lapierre.
Et finalement, on a demandé à un expert « Est-il vraiment hygiénique de partager le champagne dans la Coupe Stanley? » Bienvenue à l'épicerie. On retrouve en épicerie une diversité toujours plus grandissante de fromages. Mais comment s'y retrouver entre fromage jaune, fromage orange et fromage jaune-orange?
On a fait un test à l'aveugle avec les joueurs du Canadien en leur faisant goûter de grands classiques de préparation de fromage fondu enveloppés individuellement de type singles. Nous leur avons demandé d'identifier le fromage. Voici leur réponse.
Fromage bleu.
Le parmesan.
Goat cheese.
Le mozzarella.
Le fromage Petit Québec.
Fromage Saputo.
Ici Guy Carbonneau. Au menu de sport c'est dur à dire du sport nagar.
Au menu de ce vendredi 6 février, France Beaudoin nous raconte Michel Bergeron.
Michael Phelps nous parle des meilleurs cafés d'Amsterdam.
Annie Desrochers concilie famille et tricolore.
Et finalement, Yvon Lambert nous parle de sa partie parfaite.
Mesdames, messieurs, bonsoir!
Ouais, c'est pas super.
Pas pire, non?
Non, quand même pas okay. Super.
C'est vendredi et comme à chaque vendredi, depuis maintenant 4 semaines, j'espère que vous vous laissez confortablement aller dans l'univers du sportnographe avec un excellent chocolat chaud et votre sac de croustilles à la muscade. Mmh. Je sais que Canadien s'apprête à embarquer sur la patinoire, mais allez-vous vraiment regarder un match d'une équipe qui en a perdu 5 à ses 7 derniers?
Difficilement, parce qu'on parle dedans des micros.
Exactement, mais pour les auditeurs, je parle évidemment. Okay. Mais je vais vous convaincre de demeurez à l'écoute parce qu'on a une grande émission ce soir.
C'est
je
vrai.
Salue d'ailleurs Yvan Piquette à ma droite. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ce soir?
Ce soir, je vous parle du grand club RDS, un vecteur de liberté d'expression.
Oh, très intéressant. Oui. Et vous, Paul Meilleur?
Ben, un peu moins intéressant, en fait, c'est que j'ai rien préparé pour cette émission-là. Mais je sais par contre qu'on va recevoir la très adorable France Beaudoin plus tard dans nos jolis studios.
Et pour intéresser définitivement l'audience, sachez-le, je me plonge dans la revue Chasse-Pêche cette semaine et je vous fais une chronique concernant ce domaine oublié, trop souvent oublié. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, nous irons rejoindre Jacinthe Simard, notre chercheuse, au Salon de la pourvoirie, qui se concentrait cette année sur la place des femmes dans la chaloupe. Et avant de démarrer tout ça, je vais demander à mon meilleur ami, Paul Meilleur, qui cherchait ses feuilles d'ailleurs.
Oui,
quelle question avez-vous préparé pour nos auditeurs?
Alors, la question patin sport de la semaine, parce qu'on a enfin une commandite.
Oui.
Et la suivante, pogner le poteau, c'est l'équivalent de quoi dedans la vie quotidienne? Alors, un peu comme votre père, Réal, qui est un des rares habitués de ces questions-là. Eh bien, je vous invite, chers auditeurs, à nous envoyer vos réponses à l'adresse suivante, sportnographe avec un T, bien sûr, @radio-canada.ca. Et d'ici la fin de l'émission, bien, je compterai le nombre de réponses qu'on a reçues.
Bon, ben d'ici là, passez une émission.
Voilà.
Paris, bonjour. Vous êtes porte-parole cette année du Salon national pourvoirie chasse et pêche. Il y a une invitation particulière aux femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sac à main d'une femme qui peut nous aider à pêcher un poisson ou à servir? Ben,
moi, j'ai toujours un petit... que j'ai pas parce que j'ai pas mon sac à main avec moi, mais j'ai toujours un tout petit canif, un petit versin gétorique, je pense, des petits canifs suisses, tout petits comme ça, mais c'est un début. Il y a rien qui nous empêche avec ce petit couteau-là de se gosser une petite branche d'arbre puis de se trouver une coupe de mèche de cheveux qu'on peut tresser puis qu'on peut prendre quelque chose après. Moi, je dis que mettez-nous dans le bois, on va se débrouiller.
Pour le sportnographe, Jacinthe Simard, pas vraiment en direct du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche.
Accueillons nos Canadiens!
Quoi de plus ennuyant que de devoir s'occuper de ses enfants alors qu'un match crucial de votre équipe préférée pour la 12e place au classement se déroule au même moment? La solution? Obligez vos enfants à aimer autant que vous cette divine équipe et vous vivrez des moments de bonheur inégalés. Nous recevons cette semaine Annie Desrochers qui a expérimenté pour nous cette façon de faire en étant partisan de la flanelle en famille. Bonsoir Annie.
Oui, bonsoir messieurs. Alors c'est un honneur pour moi de participer au Sportnographe. Puis aussi d'augmenter vos codes d'écoute.
Oui, parce que c'est la raison.
M'engager, c'est engager aussi un public.
On nous a dit des vedettes, Annie Desrochers.
Oui, puis j'ai 4 enfants quand même.
On a investi un gros 35$. On a dit qu'on a dépensé pas mal ce soir.
Donc, c'est en plein ce que vous disiez. Vous savez, TQS a pensé nous impressionner la semaine dernière avec la maison de Maxime Lapierre.
Le concept on a très hâte d'écouter ça, d'ailleurs.
Oui, je sais pas. Là, c'est le concept, là, on peut le rappeler, les épouses des joueurs qui vont rénover la luxueuse maison du 40. Sauf qu'au Sportnographe, on n'est pas en reste. Alors moi, je vous propose un moment de radio-réalité avec la maison d'Annie Desrochers. Je suis peut-être pas l'épouse d'un joueur. Je suis la mère de petits partisans du Montréal. Et puis, vous m'avez donné la mission, donc, de partager cette réalité-là avec vous. Et là, on parle du Montréal, mais je sais que vous êtes entendu d'un bout à l'autre du Grand Canada.
Exactement.
Donc, on pourrait parler du Jets, du Canucks. J'étais au Winnipeg, puis on me parlait encore du Jets.
Oui, c'est drôle, parce que des fois, on va à Québec, puis on nous parle encore du Nordique. Donc,
À Québec?
Oui, oui.
Ils avaient une équipe de la Ligue, eux autres?
De l'AMH à l'époque, je crois.
Oui, coup par coup.
Oui, c'est ça. Donc, à la limite, on pourrait même parler du Canes, pour ceux qui nous écoutent de la Caroline, via les internets, évidemment. Alors, c'est de bon ton de dire que le hockey, c'est plus comme c'était dans le temps. Dans Internet, je suis tombée sur le site du vigile.net, là où on veut faire une équipe dans laquelle on est supposé de se reconnaître avec des joueurs qui ont des passeports canadiens. C'est ça. On disait ça dans mon temps, que c'était plus comme dans le temps. Là, mon père, lui, il a connu 5 Stanley de suite. Il fait partie de cette génération-là.
Chanceux.
Bien sûr. Sauf que, en y repensant bien, j'en ai connu 2 Stanley, moi, puis des parades sur la rue Sainte-Catherine. Et puis l'autre fois, on disait à nos fils, les gars, c'est plus comme dans le temps. Vous savez, quand les télécommandes avaient des fils, puis on écoutait Tom Curvers.
On ne peut pas vous aider.
Moi, je peux.
Vous êtes plus vieux.
Portez le 18, Tom.
C'est ça. Alors, est-ce que c'est un peu l'hypothèse de base dans les familles canadienne-française, est-ce que le Canadien agit encore comme un liant social, comme un ancrage?
C'est une bonne question.
La prémisse chez nous, c'est que oui, parce que mes petits gars ont Maurice Richard puis Alex Kovalev comme référent culturel. Oui, monsieur.
Maurice Richard pour l'avoir connu, j'imagine.
Exactement, bien sûr, à travers les livres, évidemment, et le coffret qu'on a offert à l'homme de la maison pour Noël. Et puis quand ils vont jouer au hockey, il y a un Ken Dryden puis un Andrei Kostitin. Donc oui, ça fait partie encore de leur référence culturelle. Donc, extrait, je vous amène chez nous, on vit avec des micros cachés, on est près du jacuzzi, puis j'ai demandé à mes fils pourquoi ils aimaient Canadiens.
Moi, j'aime Canadiens à Montréal. C'est la plus grande équipe au monde, puis c'est nous la meilleure équipe de l'histoire de la ligue. Dans une autre année, là, ils ont joué dans plein de centre-bêtes qui ont compté des buts, puis ils ont gagné la Coupe Stanley dans les séries éliminatoires.
J'ai bien compris la ligne, hein?
La ligne, déjà.
Bien formatée.
On a eu une bonne discussion après, là, en tant que fils de journaliste. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on va voir pendant cette saison, messieurs, la charge sociale du Montréal sur les familles.
Vous vous donnez toute une mission, quand même.
Oui, et ça me permet d'annoncer mon prochain sujet. Alors, si vous permettez, messieurs, je vais me dévêtir.
Oh! Wow. Donc, on est dans la radio-réalité, vraiment.
Oui, c'est la radio-réalité. Oh. Qu'est-ce que je porte ici?
Un chandail du Blackhawks.
Un chandail du Hawks.
Il est très beau. Moi, je suis curieux de voir l'autre côté. Est-ce que c'est huet?
Non, il n'y a pas de nom. Okay. Donc, c'est un chandail du Blackhawks. Et Paul, si vous pouvez vous lever et pour vous montrer à quel point ce chandail-là est vieux, regardez, c'est écrit « Fait au Canada ».
Wow!
Donc, voyez-vous...
Une autre époque.
Ouais, vie en est réduite à porter un chandail du Blackhawks parce qu'on n'a plus de sainte flanelle à la maison. Ah. Les chandails sont usés. Mon fils de 5 ans porte son chandail 3 ans. Donc, c'est dramatique, ça fait pitié.
Avez-vous besoin d'aide?
Ben, pour vous, enquête, je vais risquer ma vie. Je vais aller à la recherche du chandail du Canadien. On va comparer ça dans quelques semaines. Je vous ferai part de mes résultats.
Quelle bonne idée!
Ben, en attendant, ça vous va très bien.
Oui, le rouge, c'est mon soutien à la cause autochtone.
N'oubliez pas d'encourager en famille canadienne afin qu'on puisse au moins les célébrer jusqu'en juin. Merci, Mme Desrochers.
Au revoir, messieurs.
Au revoir.
Moi, là, mais... Canada, Montréal.
Capsule linguistique avec René Potier.
Dans le monde du hockey professionnel, il est courant de confondre noms propres et adjectifs qualificatifs. Par exemple, il ne faut pas dire « cet homme est crédible puisqu'il a été intronisé au temple de la renommée » ou encore « cet athlète a déjà remporté le trophée Conn Smythe ». En revanche, il faudra dire « Béliveau, c'est un temple de la renommée » ou encore « Zetterberg, c'est un Conn Smythe ». Cette stratégie provoque une économie significative de mots et permet à l'analyste d'en dire beaucoup plus en une seule phrase.
Moi, je suis assis avec un grand homme, un temple de la renommée.
Au spornographe, nos neurones sont en constante ébullition, sachez-le, tellement que nous devons souvent réfréner nos ardeurs parce que nous sommes beaucoup trop en avance
c'est
sur
vrai,
notre époque.
Ça,
mais il faut parfois oser, c'est pourquoi ce soir, nous tenterons l'expérience d'un nouveau concept révolutionnaire, le débat sportif.
Oh.
Tout nouveau, appelons ça 55% pour l'occasion.
Original.
Oui, merci. Parce qu'on va faire en fait la moitié de notre gros possible pour faire la lumière sur un sujet chaud de l'actualité et pour inaugurer ce nouveau segment, quoi de mieux que de parler de Robert Lang, meilleur buteur du Canadien qui s'est fait fracturé le tendon d'Achille récemment et qui est sur la touche pour le reste de la saison. Nos débatteurs ce soir, à ma droite, Paul Meilleur au coin, et à ma gauche, Yvan Piquette.
Hey, hey.
Alors, ils vont débattre sur la question suivante. Pour ou contre la blessure de Robert Lang?
Pour!
Calmez-vous. Alors, nous y allons au tirage au sort. Yvan Piquette, vous allez commencer. Vous avez 45 secondes.
Oui.
Let's go.
Oui, je suis pour la blessure à Lang, et ça pour deux raisons, l'une sportive et l'autre médicale. D'abord, l'absence de Lang aura des effets bénéfiques sur Canadiens, et ça à bien des niveaux. Lang, c'est un vieux crouton qui patine à une vitesse vraiment pas vite, qui ralentissait considérablement ses coéquipiers qui devaient l'attendre à la ligne bleue adverse à chaque montée.
Prenez des respirs.
À une autre échelle, son petit bobo secouera peut-être Robert Guéné qui est pris dans un marasme transactionnel depuis trop longtemps. Canadiens ont besoin d'un nouveau joueur de centre et Guéné n'a maintenant plus le choix d'échanger Sergei Kostitin contre Vincent Lecavalier. Et enfin, pour ce qui est des raisons médicales, il y a le fait que les blessures au tendon d'Achille sont extrêmement rares dans le monde du hockey moderne de la nouvelle Ligue nationale. Il s'agit là d'une superbe occasion de faire avancer la science pour Lang qui pourra offrir son tendon à la médecine dans la mesure où il a bien sûr signé sa carte d'assurance maladie.
Merci Piquette, meilleur au coin.
Mesdames, Messieurs, Réal, Mario, distingués auditeurs,
et
il me semble évident que pour la blessure de Robert, il faille être contre. Pourquoi, dites-vous? Voici trois. Parce que Robert, oui, Robert, vous avez bien entendu, est un prénom qui sonne français. Et pour les partisans de Canadiens, un francophone vaut mieux que deux, tu l'auras.
Ça,
contre aussi. Parce que Robert était le seul joueur de qui on pouvait dire « bon coup, Guéné ». Finalement, je suis contre parce que Piquette, homme de peu de respect, s'en prenait constamment à Lang dans des articles bourrés de fautes d'ailleurs. Malgré cela, Lang demeurait de glace et enfilait les filets. Piquette s'en prendra-t-il maintenant à Maxime Lapierre, joueur de centre au mental fragile? Si jamais, avec ses articles bourrés de fautes d'ailleurs, il en arrivait à déconcentrer Maxime et à massacrer sa belle saison, je dirais ceci. Piquette, vous n'êtes rien de mieux qu'un journaliste. Bien sûr, vous me répéterez les mots de Bourbon-Busset. Penser contre a toujours été la façon la moins difficile de penser. Je vous slap-shotterai d'en face les mots de Crevel qui disent ceci. Il faut beaucoup de naïveté pour penser qu'il est facile de faire de grandes choses.
Wow. Je comprends rien.
C'est extraordinaire. J'ai une enveloppe que Mario m'a donnée la semaine dernière qui nous indique le vainqueur.
Oui.
Alors, j'ouvre ça. Pour ses attaques personnelles et son manque de respect, Paul Meilleur au coin.
Merci beaucoup. Ouais. Merci, merci.
Bravo, Paul.
Pornographe Sport, la référence en sport.
Ça, c'est vrai. Il faut bien l'avouer, l'art de la chasse et de la pêche n'a pas la même place que Canadien ou encore le Maple Leafs dans les grands médias au pays.
Non,
non hein? Non. On entend souvent parler du quatrième trio que Guy Carbonneau a décidé de clouer au banc. Mais combien de fois entend-on parler des conséquences de la chasse à l'orignal, à l'arbalète?
Jamais.
C'est ça. Real Monger, c'est vous, ça, démystifiera pour nous dans une série de chroniques de fond qui débute ce soir le merveilleux monde, je trouve, vous en mettez un peu, là, de la chasse et de la pêche.
C'est un monde merveilleux. Vous allez l'apprendre, d'ailleurs, au fil des semaines. C'est un domaine qui m'intéresse énormément et qui contient beaucoup, beaucoup de matériel à parler sur, quand même. Je me suis donc dirigé chez mon marchand de journaux et de magazines sportifs pour faire l'acquisition du très aimé Aventure Chasse-Pêche dans sa version printemps 2009 qui contient beaucoup, beaucoup de matériel. Sachez-le, j'ai donc feuilleté ça énormément et laissez-moi vous dire qu'il y a de bons sujets là-dedans. Je pensais peut-être parler d'Émilie Blier, la jeune Émilie Blier, 12 ans, qui a une carabine préférée. Oui. Ou Denis Lapointe, propriétaire, qui nous montre comment arranger un lièvre à lâche.
Propriétaire.
Aussi rapidement que si on était en usine. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est à la page 64 de ce magazine. Je suis tombé sur une publicité qui s'intitule « L'homme panache, sa tournée 2009 ».
Oh! Intriguant.
Ça a piqué ma curiosité. L'homme panache, qui est donc cet
ben
homme
oui,
panache?
Qui est l'homme panache? C'est ce que je devais vous demander.
Oui, visiblement, vous ne lisez pas vos feuilles, pas le meilleur. Écoutez, l'homme panache, contrairement à l'homme araignée, n'a pas été piqué par un panache qui lui aurait donné des pouvoirs surhumains. En fait, c'est tout le contraire. L'homme panache, réel langlois de son vrai nom, est un des plus grands chasseurs d'orignal à l'arc qui poursuit sa proie sur les terres arides du Canada tout entier, mais particulièrement au Yukon. Un personnage fascinant. Vous savez, cet homme est très célèbre pour ses techniques d'appel, mais aussi pour ses longs métrages et ses différentes conférences qu'il présente à travers le Québec.
C'est un cinéaste.
C'est vrai, c'est un cinéaste. C'est exactement ça. Merci, Réal. Yvan, votre nom, Yvan?
C'est ça.
Yvan, d'accord. Je me suis intéressé au personnage tout au long de son cheminement, en fait, à travers ses longs métrages. On peut deviner qu'est-ce qu'il devient au fil des temps. D'ailleurs, vous savez, son tout dernier long métrage vient de sortir, L'homme panache au Yukon 7.
Je savais pas. No.
Il fait suite au très populaire L'homme panache au Yukon 6, La revanche de l'orignal blessé.
Logique.
Mais je suis parti à la base, évidemment, avec l'homme panache au Yukon 1, la naissance de l'homme panache.
Oh. Bon.
Alors, oui, ben,
vous dites souvent homme panache.
C'est parce que je trouve que c'est un nom extraordinaire. Okay. C'est comme l'homme araignée, mais l'homme panache. Hein. Alors, on voit dans ce premier film-là, en fait, c'est vraiment la naissance. On aperçoit un homme panache qui est plus prudent, qui hésite avec sa première rencontre, lors de sa première rencontre avec l'orignal, si vous voulez, avec son ennemi à quelque part. Mm-hmm. On en écoute un extrait.
Là, je me dis, je tire dessus, je tire dessus pas, on est la première journée. C'est tentant, criez-moi, c'est tentant. Je change d'idée.
Vous voyez?
C'est tentant.
C'est son, mais on le sent dès le début. Hein. C'est une tension extrême entre l'animal et le chasseur. Hein, on ne sait pas trop comment il va aborder l'animal. J'oserais presque dire qu'il est un peu le capitaine Ahab à la recherche de sa Moby Dick.
Ouh.
Oui, rien de moins. Et comme tout héros, l'homme panache évolue, on peut le remarquer tout au long donc, de ses films, un peu comme Batman, hein, il devient quelqu'un d'autre, il se transforme, il prend de l'assurance, comme nous l'entendrons d'ailleurs dans cet extrait, de l'homme panache 4 à la recherche des géants, alors qu'il confronte la bête qui se tient tout près de lui. On écoute.
C'est un assidu, hein? Viens ici, on va te battre. Hein? Saute et t'en bats. Ah oui, viens te battre. Come on, viens te battre.
Du chien dans le nez, hein?
Oui, tel Ulysse affrontant le cyclope, on le sent maintenant beaucoup plus frondeur, hein, téméraire, ouais. Plus assuré. C'est une aventure que l'on suit justement jusqu'à son fameux L'homme panache au Yukon 7, un film beaucoup plus abouti avec un plus gros budget, évidemment.
Tourné à Hollywood,
c'est presque, en fait. Et dans ce film, il met la main sur son monstre, sur son orignal, qui fait de lui aujourd'hui le détenteur du record mondial Po Men Yang, grâce à un panache de 76 pouces et d'un score 249,58.
Ça veut dire quoi, ça?
Aucune idée.
Ça doit être le diamètre du panache, sûrement.
J'imagine, la circonférence du panache. Je sais pas trop comment ça se calcule. Enfin bon, c'est une épopée extraordinaire qu'il faut suivre. Et on peut suivre ça sur son site web que notre ami Mario va mettre en ligne, évidemment. On peut suivre ça grâce à ses DVD, à ses CD de techniques d'appel à l'orignal, et évidemment grâce à ses conférences, dont celle de ce soir à Sainte-Perpétue dans la salle du centenaire, ou encore celle de la semaine prochaine à Rimouski à l'église Saint-Robert.
Ça n'a pas manqué.
Et je citerai mon ami l'homme panache qui clôt ses conférences de cette façon. Chers amis, en tant que mon nom personnel, j'aimerais vous remercier de votre attention.
Ben voilà qui est dit, votre nom.
Ici Norman Leblanc, directement de Blue Bonnet. Voici les résultats de la 6e course M-Bowl NW5000 LT pour une bourse de 4 400. Première position, Kanako Ramette, suivi de Enjoy the Lady, Duc de Mongli, Jackpot Emotion, Rose Normand, suivi de Poon Deluxe et finalement par une longueur de croupe, She's Wild qui termine le bal. Ici Norman Leblanc, en direct du métro Namur, qui vous dit petit galop!
La SPM vous remercie de votre compréhension.
C'est éphémère dans le temps, mais quand même.
30 fréquences secondes avec Pierre Trudel. Une présentation de Spornographe avec un T.
Eh oui, Tel un vieil oncle que l'on retrouve avec bonheur durant les fêtes de Noël, c'est en tout honneur et toute gloire que nous recevons ce soir encore une fois notre bonne amie Pierre Trudel qui a scruté pour nous le merveilleux monde des médias du sport.
Je vous trouve têteux.
Ben non, mais pourtant j'ai commencé avec tel un vieil oncle.
Bah, ouais, c'est ça. Ça rapproche de vieil oncle cochon. J'aime pas ça trop
trop. Monsieur Trudel, bonsoir.
Bonsoir.
Il vous reste 4 minutes.
Écoutez, ben non, bon, je vous empiétez pas sur mon temps, c'est pas vrai. Ben il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière émission,
ça, n'est-ce
pas? Donc j'ai quelques commentaires et remarques désobligeantes surtout.
Ça note d'alarme est proche.
À vous faire part d'eux, là, tu sais. Comme disait Benoît Brunet, dans le match canadien Boston dimanche, j'ai passé une belle après-midi.
Nous aussi.
Grâce surtout au Super Bowl. Puis contrairement aux joueurs des Bruins, moi, je n'ai pas eu à prendre un autobus pour aller prendre un avion.
Ça, c'est vrai.
T'sais. Brunet, écoute, comme si c'était passé. Il y a maintenant des problèmes avec les non-francophones.
Non.
Pendant le match, il a parlé de Stephen Yell.
Oui.
Vérification faite. Confirmé par deux sources différentes, comme on doit faire. Stephen s'appelle Stéphane depuis sa naissance, qui est survenu un 9 mai 1974.
Bonne fête.
Ça, c'est
Stéphane.
Vérifié. Mais un petit peu plus tard dans le match, il a parlé d'une blessure à l'escojambier.
Oui, c'est vrai, je l'ai entendu.
Ça reste au bas du corps. Ce qui m'amène aux interdits du Canadien, les gars.
Dites-moi.
On sait que le Canadien interdit à ses joueurs de traverser la ligne de piquetage du Journal de Montréal.
Oui, oui. Ouais.
Je trouve ça correct. D'abord qu'ils apprennent à franchir la ligne bleue.
Oui.
Ouais, comme il faut. Il interdit aussi à ses joueurs de collaborer à un blog, tout blog.
Ah, oui.
D'un coup qu'il y en a un qui aurait une idée ou une opinion.
Il ne faudrait pas la partager.
Non dictée, tu sais. Et le Canadien, enfin, n'accorde pas la permission à un joueur de participer au Spornographe sur la première chaîne.
Oui, ça, c'est vrai.
C'est vrai?
Ouais.
Il faut le comprendre. Le Canadien ne contrôle pas ce qui se dit au Spornographe.
C'est vrai.
D'ailleurs, c'est une autre affaire. Je vous parlais un petit peu de télé-réalité. On sait que TQS décore la nouvelle maison luxueuse de Maxime Lapierre.
C'est le thème de l'émission aujourd'hui.
Ah, oui, effectivement. J'apprends que TVA va décorer celle de Guillaume Latendresse.
C'est vrai?
Oh, oui, monsieur. En plus, il va être l'invité à Dieu merci, au banquier, à Deux filles le matin. Il va être interviewé par Pierre Bruno. Il va recevoir un abonnement Internet Vidéotron de vitesse à la téléphonie Vidéotron, Journal de Montréal, à 7 jours, au lundi. Il va recevoir l'un des 25 trophées de TVA Gala Artiste, puis il va animer un gala juste pour rire. En plus, avec les bloopers survenus dans le tournage, on va faire une émission spéciale de 30 minutes qui va passer 15 fois cette année.
Je pense que ça va être un spécial clochette, cette chronique-là.
Un succès.
Je n'allais pas censurer ça, vous autres, là.
Appelez ça comme vous voulez, mais...
Vous seriez surpris.
Il va manquer des bouts.
Ah bon?
Moi, je me demandais la poule là-dedans, non? OK, on continue.
La poule? Ah, je l'ai oublié, Colin. Dans un combat présenté à Radio-Canada, il y a Herman Ngoudjo qui a perdu face à Orango, on le sait. On a vanté son courage. Son promoteur a dit qu'il avait progressé dans sa carrière malgré la défaite. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, voir la réalité des choses? Il a mangé une volée pendant 12 rounds. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est ça que j'attendais.
Tu sais, il a mangé une volée. Au cumulatif, le Super Bowl, 151 600 000 téléspectateurs qui ont regardé un petit bout au complet. Alors, il y a plusieurs qui ont vanté le spectacle à mi-temps du Super Bowl. C'est OK. Il y avait Bruce Springsteen, il y avait le E Street Band. Mais nous autres, à mi-temps de la Coupe Grey, là, on avait quand même Susie McNeil.
C'est vrai.
Puis Theory of a Dead Man.
Ah oui.
Puis on avait André Waters.
C'est vrai. Ah. Ce sont tous des...
Trois noms que je connais
pas. Il
n'avait pas
eux autres. Je peux-tu vous raconter rapidement un épisode de ma vie sportive?
Je vous en prie.
Oui.
Il y a une étude du professeur Michael Anderson. Ça, c'est assez vrai, ça. Et de psychologue de l'Université écossaise de St. Andrews.
Oui.
Là où on a inventé le golf. L'étude, donc, tend à démontrer que les golfeurs ne devraient pas penser ou parler avec l'autre de la qualité de leur dernier élan ou l'erreur qu'ils ont faite, etc., etc. Parce que trop de réflexion nuit à la qualité des coups suivants.
Ouais.
J'en suis la preuve. Un jour, je me suis présenté au terrain pour faire un petit Tiger Woods de moi.
Ouais.
Frappe la première balle, ça en va dans le bois à gauche.
Pourquoi? C'est le talent qui ressort.
J'ai-tu mal frappé? C'est quoi? Je sors la balle, je la frappe, elle s'en va dans le bois à droite. Bon, j'essaie de penser. J'ai-tu levé la tête, quoi? Je perds un coup, je la sors, je la mets dans l'allée, dans l'eau.
Oui, c'est le talent.
Non, je vois, s'y passe. Là, je perds un autre coup, je la place sur le terrain, je la frappe dans la trappe de sable. Ah. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je réfléchissais, j'analysais constamment à chaque trou. Le lendemain, j'y suis retourné, j'ai beaucoup réfléchi, puis plus jamais je vois au golf.
Monsieur Trudel, que vous êtes brillant.
Ouais, ça a l'air que vous allez couper de nez, en tout cas. Les avocats vont écouter.
Monsieur Trudel, merci. À la semaine prochaine.
Salut.
Annick Forêt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des copropriétaires du salon. Comment ça se passait, les sorties de chasse de vos parents?
Disons que souvent, mon père, quand il revenait d'un voyage de chasse avec ma mère, le lundi matin au bureau, quand on lui demandait, et puis, comment s'est passée ta chasse? Avez-vous pris? Il disait toujours, bah oui, un petit peu bougonneux. Et c'était parce que c'était toujours ma mère qui revenait avec les trophées. Alors, c'est quelque chose que, en effet, ma mère revenait avec les plus gros poissons, les plus gros panaches, toujours, elle lui faisait la barbe pas mal. Il était un petit peu bougonneux, c'était son petit côté macho qui ressortait.
Pour le spornographe, Jacinthe Simard, pas vraiment en direct du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche.
Vous écoutez le spornographe. Retrouvons Piquette, Manger et Meilleur au coin.
Il aborde des sujets toujours complexes sans les maîtriser et il scrute pour nous un univers encore incompris. Il use d'intelligence là où nous nous y attendons le moins. Je parle évidemment d'Yvan Piquette qui s'attarde cette semaine à un phénomène exceptionnel, si je ne me trompe guère, Yvan.
Vous ne vous trompez pas cette semaine pour ce que certains appellent la chronique à Piquette sur les internets.
Wow.
J'ai exploré pour vous des sites de contenu générés par les utilisateurs dégénérés.
Intéressant.
Oui. Pour résumer, ce genre de site permet aux amateurs au sens propre, comme dans pas professionnel, d'envoyer leurs contributions écrites, vidéo ou audio. Et qui dit amateur de sport. Et qui dit amateur de sport dit « J'ai une opinion sur le deuxième trio de Canadiens et j'aimerais la partager avec le monde entier. »
Un peu comme on fait.
Oui. Et c'est exactement ce qui fait le succès, en tout cas, de ce type de site.
Ouais.
On en dénombre trois du genre sur les internets québécois, fanatique.ca, Passeport Chorus et le Grand Club RDS. Et d'ailleurs, Mario va mettre les liens sur le site.
Merci, Mario.
Fanatique.ca, pour commencer, est organisé comme un média et on y pratique le journalisme citoyen.
Wow!
Oui. Évidemment, les contenus exclusifs sont assez rares parce qu'il y a peu de citoyens qui ont l'adresse de courriel de Robert Guéné ou accès au bas du corps d'Alex Tanguay.
Ouais, c'est
ça. Donne donc beaucoup de textes qui mélangent des informations grappillées dans deux ou trois articles de journaux, des citations entendues à la radio et un soupçon de mauvais français.
Rien de neuf, finalement.
Mais c'est ça, justement, il n'y a rien là de scandaleux.
Oui.
C'est un peu ce que font les grands médias avec pas de correspondants à l'étranger en utilisant des textes de l'AFP ou de Reuters. Tu prends un bout là, un autre là, tu reformules une phrase, tu écris ton nom à la fin, bingo!
Ah, c'est beau, ça.
Oui. C'est aussi ce que je fais d'ailleurs avec cette chronique, qui est un mélange de Michel Baudry et de Bruno Guglielminetti.
C'est comme mélanger du classique avec du heavy metal, finalement.
C'est quelque chose comme ça. J'ai interrogé Émile Girard de fanatique.ca à ce sujet en lui faisant valoir que ce qu'on trouve sur son site, ça ne fait pas vraiment avancer la société. On écoute sa réponse.
Ne pas faire avancer la société, M. Piquette, il me semble que c'est là justement l'intérêt d'un vrai média sportif. Pouvez-vous m'en nommer un autre média sportif, justement, qui fait avancer la société? Un seul qui n'a pas fait 10 jours de nouvelles sur le dos de la RAC ou encore sur le non-échange mémorable impliquant un certain Jean Béliveau 2.0. Un média sportif comme Exutoire, moi, je dis oui.
Ben, je dis oui également.
Oui, papa.
C'est une belle publicité.
Oui. Oui, hein. Mais il reste qu'en général, Fanatique fait du bon boulot. Et je dis pas ça parce que l'année dernière, Émile m'a invité à un match des séries.
Extorsion.
Je lui ai d'ailleurs demandé s'il prévoyait m'inviter encore cette année.
Ben, ça se peut, mais maintenant que le spornographe est rendu payer même nos impôts, je me disais que vous pourriez au moins payer la bière.
Bon. Argument facile, hein?
Très
payer
facile.
Avec nos impôts
toujours
quand
très,
on veut
très
nous
facile.
Attaquer, toujours ça.
D'autre part, je ne m'étendrai pas sur ce que fait Chorus dans le genre, puisque c'est assez minimaliste, mais disons que c'est une transposition de ce que Ron Fournier pense, mais écrite au son.
C'est pas fou.
Le Grand Club RDS est beaucoup plus intéressant.
C'est vrai,
ça, on y trouve vraiment de tout. C'est un peu une prolongation des célèbres talkbacks du site de RDS.
Talkback en français, c'est quoi?
Ben, RDS, ils ont traduit ça par talkback.
C'est minimaliste.
C'est ça, voilà. C'est ça.
Ça se veut un peu un réseau social à la Facebook où vous pouvez soumettre toutes sortes de trucs comme vos états d'âme à propos de Sakoukoï-vous, vos vidéos de vacances à Hamilton ou des photos d'avions de chasse.
C'est un sport, la chasse, quand même.
L'important, de toute façon, c'est de créer le plus de pages de contenu possible pour mettre des publicités de voitures et de bières.
Ouais,
et
ça, c'est...
l'amateur de sport fait tout ça gratuitement.
Merci, amateur.
Oui. Afin de rendre justice aux perles de littérature que l'on trouve dans les talkbacks, j'ai demandé à Christiane Charette, qui a développé un certain talent pour s'adapter à toute situation, de nous en lire quelques extraits. Et tout d'abord, écoutons l'extrait de Betty Bou 1, qui manie le clavier avec beaucoup de doigté.
Pauvre petit Betty.
Je pense qu'on devrait mettre YouTube. Just des gars comme La Tendresse, tellement forte lol, à mourir. J'achète pas la face de La Tendresse. En tant Québécois, je trouve très poche, comme gars. Il devrait suivre sur Maurice Richard.
En tant québécois.
Oui. Clair comme de l'eau de roche.
Okay. Il y a aussi Madaise 42 qui est un peu indécis, on l'écoute.
Je sais pas. On est dans la cour des grands. Ben, on n'a pas d'affaires là pour l'instant. Colin, c'est très plate de voir des choses comme ça. Pas des farces. Pas de jeu. Ben là, je sais pas. Et vous?
On dirait du Denis Drolet.
J'ai remarqué quelques fautes de français également.
Oui, il y en a quelques-unes. Okay. Mais bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que de nos jours, tout le monde peut être un expert en sport, tout le monde peut publier sur le web et que le mélange des deux donne souvent de la chenoute.
Merci pour cette délicieuse chronique.
Ça fait plaisir.
Ça doit être comme un bonbon sucré que tu refuses de croquer pour le sucer plus longtemps, ce Claude Julien.
Mais moi, j'ai vu le jeu de puissance du Canadien avec Doug Harvey. C'était l'enfer du mal.
C'est comme nos enfants. Hein? Tu lui donnes de la corde un peu pour se pendre, puis une fois que la corde est rendue tendue pas mal, tu lui parles un peu plus fort. Mais c'est là qu'on est rendu.
Dans les 5 dernières années, disons dans le règne de Bob Gainey, les résultats n'ont pas été escomptés lorsque ça compte.
Tu perds pas ta forme à être blessé à la laine, Michel.
C'est un gars qui est une condition.
Bon, on vient de perdre la communication.
C'est un cheval, ce gars-là.
Est-ce que la blessure à Rick DiPietro vous fait mal, Marc, actuellement?
On sort avec une nouvelle blonde, là. La femme de nos enfants, peut-être, là. La femme de nos enfants, peut-être, là.
Ton rêve est réalisé, je crois pas à ça que t'en as plus d'autres. T'sais. C'est comme un appétit. T'sais. Tu manges, c'est pas vrai que t'as plus d'appétit, tu vas en avoir un autre qui va venir. C'est logique, ça?
Cette période est une présentation des assurances Ressort. Les assurances Ressort, placement conseil, c'est ça, c'est sûr, c'est ça.
Le club de hockey canadien se dirigera lors de la prochaine semaine vers l'ouest canadien afin d'affronter ses petits cousins de Calgary, d'Edmonton, de Vancouver. Et on a ressorti de notre tiroir à petit change notre comptable agréé, Jean Dion, afin qu'il nous calcule le comment du pourquoi de ce prochain périple maître chiffre. Bonsoir.
Bonsoir.
J'aime ça, maître chiffre.
Agréé, mais surtout agréable.
Ah, je voulais écrire agréable, mais je me suis dit, c'est tellement une vieille blague.
À propos de matchs dans l'Ouest, est-ce que je peux vous raconter une tranche de vie avant que de passer aux chiffres?
Oui, mais sachez qu'il vous reste à peu près 4 minutes.
Quand j'étais petit,
dites-moi,
je consultais régulièrement les classements dans le journal, les classements de la Ligue nationale. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de résultats en temps réel et tout. Alors, lorsque les journaux étaient publiés le lendemain matin, souvent, les résultats des matchs sur la côte ouest n'étaient pas
arrivés. Oui. On donnait le résultat en deuxième période,
c'était trop tard. Ouais. Et c'était en haut du classement, il était marqué, par exemple, match à Los Angeles, non compris.
Mm-hmm. Ouais. Non inclus.
Mais j'étais petit à l'époque et je ne savais pas que comprendre, ça pouvait aussi vouloir dire inclure.
Ah.
Alors, je pensais qu'ils avaient téléphoné à Los Angeles. Ils avaient téléphoné à Los Angeles pour avoir le résultat du match, mais la ligne était mauvaise, puis ils n'avaient pas compris.
Et avec ça, vous êtes quand même devenu journaliste.
C'est extraordinaire. L'évolution humaine.
Chapeau. Je pourrais vous parler de la zone-zone aussi.
On en parlera la semaine prochaine. On va
OK,
avoir
la semaine prochaine, zone-zone. Okay.
Vous êtes en feu.
35.
Oui, 35. Oui.
Est-ce que vous avez regardé le match du Super Bowl?
Oui, mais
j'aimerais
moi, personnellement,
vous dire oui, mais pas une seconde.
Pas vraiment. Non,
non. Personnellement, oui.
Alors, ceux qui l'ont vu,
merci,
ont vu que le match était terminé in extremis, comme disait quelqu'un que je connais, avec une passe de toucher de Ben Roethlisberger à Santonio Holmes, qui a assuré la victoire aux Steelers, alors qu'il restait au tableau...
35 secondes.
35 secondes.
Oh.
Reportons-nous l'an dernier au match entre les Giants de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Giants gagnent de la même façon avec une passe de toucher in extremis.
Trop, je pense. Moi.
De Eli Manning à Plaxico Burress.
Oui.
Avec
35 secondes.
35 secondes.
Ben, c'est arrangé avec le gars des poteaux, je pense.
Moi, je pense que c'est pas loin d'être arrangé. J'ai gardé aussi le chiffre 9 pour expliquer le ridicule de la situation. C'était mardi. Les Rangers de New York ont retiré le chandail numéro 9 de...
Maurice Richard.
Maurice Richard,
c'est ce que j'ai dit. Maurice Richard?
Adam Graves.
Ah oui, oui, oui.
Mais ils ont pas beaucoup de joueurs à retirer des chandails de, je serais prêt à dire.
Adam Graves,
pensez-vous,
sans blague,
pensez-vous
pas,
que Canadien aurait retiré le chandail de Adam Graves?
Non, parce qu'il jouait pas pour eux.
Écoutez, je regardais ses statistiques.
Adam Graves, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a aucun sens. Il a joué 1152 matchs en carrière et il a réussi 616 points pour une moyenne par saison de 44 points.
Bon, ça veut dire qu'on peut retirer le numéro de
Pierre Dagenais.
C'est ça.
Non, mais c'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, quand on regarde la liste des chandails qui ont été retirés par toutes les formations de la Ligue nationale, on voit que Canadien est dans une classe à part. Canadien qui n'a même pas la décence de retirer celui de Butch Bouchard.
Vous faites un run de vous-même.
Et quand je vois Ryan O'Byrne se balader avec le numéro 3, je suis fier d'être passé au Nord.
Et avec tout ça, l'Ouest canadien dans ça.
Hein?
Les numéros qui ont rapport avec l'Ouest.
Ben non, mais j'avais dit que c'était des parties non comprises. Alors, j'ai appelé dans l'Ouest. J'ai le appelé dans l'Ouest pour avoir des chiffres. Puis la ligne était mauvaise et je les ai pas compris.
Bon,
tout est clair maintenant. Monsieur Dion, merci beaucoup.
Oh. Vous savez, parfois j'écris dans le journal et on me dit, mais de quoi vous parlez aujourd'hui? Puis je dis... Je ne sais pas.
Nous non plus.
Dans notre livre à nous, il y a plein de pages déchirées. Spornographe, la référence.
Lecture de l'Évangile selon Bob au chapitre 2, les versets 6 à 14 par le père Marie Maurice. Or, il advint que la mère de Guy enfanta son fils premier-né, l'enveloppa dans la sainte flanelle et le coucha dans un vestiaire parce qu'il manquait de place dans l'hôpital. Il y avait dans la même région des hockeyeurs qui vivaient sur la glace et gardaient les buts durant les rencontres de la nuit. Les fantômes du forum se tinrent près d'eux et ils leur dirent « Soyez sans crainte, car voici que vous nous annonçons une grande joie pour tous les Québécois. Aujourd'hui, dans la ville de cette île, vous est né un sauveur. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans la sainte flanelle et couché dans une mitaine. » Et soudain apparut une troupe nombreuse du Temple de la Renommée qui louait Maurice Richard en disant « Gloire aux roquettes au plus haut des cieux, paix aux glorieux, objet de son amour. Saint Patrick est avec vous et ses poteaux sont avec lui. »
On peut être expert en tout et en rien, même en jeux vidéo, qu'il l'eût cru. Analyse sociale, critique et évaluation des différentes consoles. On imagine l'expert en jeux vidéo assis seul sur son divan, entouré de vieilles boissons gazeuses et de croustilles au ketchup.
C'est bucolique.
Et pour consolider ce préjugé, nous recevons ce soir Jean-François Coderre, scribe d'un journal qui n'a actuellement plus de scribe et expert en jeux vidéo. Jean-François, bonsoir.
Bonsoir, Réal.
Bonsoir.
Récemment, dans mon grand filet de pêche qui me sert d'information, j'ai puisé un top 20. 25.
Un poète.
Un top 25 des meilleurs personnages de jeux vidéo de hockey, donc des meilleurs bonhommes de jeux vidéo de hockey.
Bonhomme.
Tout un
des
sujet.
Bonhomme. Okay. Tout le monde a toujours appelé ça des bonhommes. Bon, après tout, il faut dire que si dans l'histoire de Canadiens, on est capable de faire un top 100 des meilleurs joueurs puis d'identifier que Shane Corson était vraiment meilleur que André Corriveau, on peut le faire aussi pour les jeux vidéo.
Bon
Surtout
point.
Que les jeux vidéo, c'est plus facile parce que chaque joueur a une cote particulière avec un vrai chiffre
c'est
attribué
vrai.
Pour chacune de ses qualités. Bon, par exemple, si je prends l'exemple de Canadien actuellement, on aurait peut-être un 95 sur 100 pour Alex Kovalev pour les feintes. Georges Larac aurait peut-être un 99 % pour les tapes sur le menton.
Oui.
Puis Tom Kossopoulos, ben, il travaille fort. Tom, tu sais, quand même.
Un grand rôle. Peut-être 100 pour l'endurance.
Oui, peut-être, oui. Bon, j'en profite tout de suite pour avertir ceux qui ne sont pas très familiers avec les jeux vidéo puis qui vont entendre des noms comme Sega Dreamcast, Sega Genesis ou Super Nintendo. Vous avez juste à vous faire une image mentale d'une vieille boîte en plastique avec des boutons qui traînent dans le fond d'un marché aux puces avec de la poussière dessus et vous allez être sur la coche.
L'image est exacte.
Je ne vous dresserai pas le top 25 dans le long parce que, bon, ça serait plate. Mais je vais tout de suite focusser sur le numéro 15.
Oh.
Si je vous dis Hulk Gros, M. Munger, à part un personnage des Boys, à qui est-ce que vous pensez?
Moi, personnellement, je pense à un personnage de Love Story. Vous savez, Mathieu, je pense.
Oui, oui, exactement.
Donc, Mathieu serait le 15e du palmarès.
Oui, non, pas vraiment. Non, je suis un peu déçu de la suggestion. Parce que quand même, il me semble que c'est évident qu'on parle du gros de Ice Hockey.
Wow!
Ice Hockey, la légende, le premier jeu vidéo de hockey.
Quelle
digne
année,
de ce
89, 88?
86 de mémoire,
Vous êtes vieux.
Sous toute réserve.
Oui,
donc, Ice Hockey, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est le jeu où les joueurs avaient un vaste éventail entre trois choix de bonhomme. bonhommes, donc les petits, les moyens et les gros. Ils composaient leur équipe avec ça.
La diversité déjà à l'époque.
Exactement. Et ce que le classement nous rappelle, et que j'avais oublié, force d'admettre, est que le gros, la garnotte du gros, avait la capacité d'assommer le gardien adverse pendant quelques secondes, vous laissant ainsi enfiler un but facile dans un filet désert.
La vraie réalité du sport.
Ouais, et ça, il faut dire que de nos jours, même Zdeno Chara n'y arrive pas. Donc, c'était vraiment une 15e place bien méritée. Ouais. Je saute immédiatement ensuite au top 5.
S'il vous plaît.
Les autres, on s'en fout un peu. La cinquième position est occupée par Hachek, Dominique Hachek.
Votre joueur préféré, hein, c'est
oui,
ça?
Que j'y haïs pas mal toute ma vie, effectivement. Mario Lemieux, il venait en quatrième position.
Évidemment.
Patrick Roy en troisième. Il faut dire qu'on a spécifié que c'était l'année 2000, donc la première avec laquelle il était avec l'Avalanche, où il était le meilleur.
Ah.
Wayne Gretzky en deuxième position. Puis là, je vous sens suspendu à mes lèvres.
Non.
Bon, OK. En tout cas, je continue quand même. Vous dites, attendez un peu. Gretzky en deuxième, qui diantre ose donc dépasser la merveille dans un palmarès lié au hockey?
Je vous le demande.
Donc, il faut croire qu'il y a un palmarès pour les grandes gueules. Un dieu pour les grandes gueules, pardonnez-moi. Parce que c'est Jeremy Roenick qui remporte la première position, et plus spécifiquement Jeremy Roenick version Jeremy Roenick version NHL 94.
Ah, spécifiquement.
Oui, spécifiquement. Cuvée. Les plus grandes théories du complot circulent sur les internets, à savoir qu'est-ce que Roenick a bien pu faire aux gars qui ont fait le jeu pour être aussi fort.
Ben là, je sens que vous allez arriver avec la réponse. Justement, qu'est-ce qu'il a pu faire?
Ben malheureusement, je ne le sais pas. Oh. Mais je peux vous donner un point de comparaison. Jeremy Roenick dans NHL 94, c'était un peu ce qui se rapprochait le plus de Ovechkin qui jouerait pour les Braves d'Antique puis Wibi à l'heure actuelle.
Tout un joueur.
Tout un joueur. C'est clair. D'ailleurs, je reviens un peu sur NHL 94 parce qu'il y a une véritable nostalgie, un grand culte autour de NHL 94, un jeu qui date d'il y a 15 ans et pourtant qui est encore considéré comme étant le meilleur jeu de hockey jamais fait.
Meilleur que 2009, par exemple?
Meilleur que 2009. Wow. Et alors que, bon, à mon humble avis, c'est tout à fait faux. C'est une nostalgie que je ne comprends pas. C'est un sentiment, je pense, que si j'avais à comparer, je disais, c'est peut-être le même sentiment qui va nous faire dire quand Michel Louvain va mourir, à quel point c'était un grand chanteur.
Ouch.
Bon. Donc, parce qu'il faut rappeler que NHL 94, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'était le jeu qui a, inventé les tirs sur réception, mais c'était celui aussi où les lames de patins coupaient comme des barreaux de chaise.
Ah oui, c'est assez glissant.
Et un match qui se terminait 14-12 pouvait être considéré comme un duel défensif de gardien avec bien caché derrière la trappe.
Palpitant.
Sur ce, je vous laisse en lançant une nouvelle rumeur à Montréal. Jeremy Roenick comme troisième centre. Oh.
Jeremy Roenick, ça joue encore au hockey, ça?
À San Jose, je crois.
Oh.
Une bagarre, c'est comme du popcorn. C'est quand ça chauffe que ça pète.
Yo escucho Spornograph.
You're listening to The Spornograph.
Chalzwins, man, Spornograph.
Moi, j'écoute le Spornograph Sport.
Et oui, écoute Spornograph.
Oh, mais que c'est une citotine Spornograph.
Le Spornograph, la référence partout où le palais est roi.
Une autre semaine, une autre personnalité qui vient s'asseoir avec nous autour de notre foyer dans ce segment qui nous rappelle les bons vieux moments de Radio-Canada, cette ligne du vieux poêle. Cette semaine, la très charmante France Beaudoin qui vient nous parler hockey. Bonsoir, France.
Salut. Nordique,
bonsoir.
Surtout.
Oui, parlons nordique avec
donnons
France
Beaudoin. Donnons notre couleur d'entrée de jeu.
Justement, on se demandait France Beaudoin, hockey, le lien nordique?
Le plus nordique que canadien, mais surtout le lien avec mon père. Parce que quand j'étais jeune, je ne sais pas, je dois avoir peut-être 9, 10, 11 ans, donc j'étais au primaire, mon père avait épicerie, donc lien avec compagnie de bière. Donc, compagnie de bière qui t'appelle à 1h l'après-midi pour te dire « j'ai deux sièges de disponibles ce soir ». Je restais à Disraeli, c'est une toute petite ville, mais aller à Montréal, quand on allait au Canadien, c'était 3h aller, 3h revenir. Nordique, c'était 2h aller, 2h revenir. Alors, j'avais intérêt à faire les devoirs en montant et à dormir en revenant, mais c'était 2-3 fois semaine. Dans le temps des séries, là, c'était vraiment 2-3 fois
mais
semaine.
Mais ils les faisaient pas souvent, les séries.
Non, c'est ça. Mais quand même. Les derniers temps, là, on était là-dedans.
Donc, vous préfériez aller au Centre Bell? Non, à l'époque, c'était le Forum.
Forum.
Parce qu'on recule de plusieurs années quand
Oui, bien, d'une 5-6 ans facile. Donc, Forum et ou Colisée, lequel des deux vous préfériez, le Colisée?
J'aimais mieux le Colisée. Ben, en fait, Forum, il y a tous les fantômes et toute l'histoire qu'elle a avec, mais le Colisée parce que nordique. C'était vraiment le feeling d'aller au nordique.
Votre père aussi nordique?
Mon père était très nordique. Vraiment très nordique et ça me permettait de m'obstiner avec les gars dans la cour d'école le lendemain matin. quand je voyais mon père arriver dans la petite fenêtre de la porte de la classe, là, parce qu'il ne me disait pas d'avance, je savais qu'on venait de partir au hockey, que j'allais m'obstiner avec les gars le lendemain matin. Il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dedans.
Donc, une fan de hockey?
Oui.
C'est vrai? Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui, mais il faut me gagner. Tu sais, quand ça marche moins, je suis pas inconditionnel à vie à mort. Tu sais, faut me gagner. Quand
le Canadien?
Bien, j'aimais mieux ça l'année passée, en fin de saison. Ouais. J'avais mon drapeau sur ma voiture.
Ah oui? Oui. Une partisane de Nordique, mais... Quand on s'est laissé gagner par Canadien quand même avec le temps.
À un moment donné, il faut lâcher, ils sont plus là.
Et en plus, c'est le centenaire cette année. Oui. Raison de plus d'être un partisan maintenant parce qu'on a besoin d'aide. Le Canadien a besoin d'aide.
Oui, on voudrait remplacer quelques blessés. Ah, on a besoin d'aide. Ouais.
Est-ce que vous auriez des suggestions? Je ne sais pas.
Non, pas à ce point-là. Veux-tu y aller?
On barre cette question-là.
On parlait la semaine dernière, on discutait comme ça, et on a eu une information assez intéressante dans votre passé.
Oui.
Michel Bergeron, vous le connaissiez.
Je l'aime d'amour.
C'est vrai?
Je l'aime d'amour.
Mais pourquoi vous l'aimez d'amour à ce point-là?
Ça, c'est un coming out extraordinaire. Ah, wow. Je l'aime d'amour. Si tu me disais, là, dans 2-3 coups de cœur sur 20 ans, admettons, les 20 dernières années professionnelles, là, il y a Michel Bergeron.
Comme entraîneur des Nordiques?
Comme entraîneur pour la fougue, debout sur le bout du banc, avec son habit puis sa bague, là, puis son poing dans les airs. Il y avait une espèce de fougue de passion qui était là. Mais aussi parce que après, dans les premières années où j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée à CKAC sur plusieurs émissions et je devais faire la recherche pour les amateurs de sport un petit peu. Il fallait que j'organise un quiz. C'était Pierre Rinfret et Michel Bergeron qui étaient là. Et ça, si mon père n'avait pas compris avant pourquoi je voulais devenir journaliste ou que j'avais été étudiée à Jonquière, là, il venait de comprendre. C'était la consécration. Même, écoute, s'il était encore là, il est décédé, il était encore là aujourd'hui. Là. Mm. Peu importe ce que j'ai fait par la suite ou que je fais encore aujourd'hui, ce serait d'avoir travaillé avec Michel Bergeron. Et je l'aimais tellement qu'il y avait un quiz dans l'émission où c'était des questions de tout ordre, de toutes sortes de trucs. Et c'était pas facile tout le temps. Et moi, j'avais assez peur qu'il manque, pas parce qu'il en manquait plus qu'un autre, mais je voulais tellement pas qu'il en manque que j'allais lui refiler les questions à chaque fois, les réponses, pour être sûr que mon Michel ait les bonnes réponses en bout de ligne. Tu sais,
on appelle ça tricher, hein, je pense.
Oui, je pense que c'est tricher quelque part.
Non, on appelle ça aimer inconditionnellement.
Ah, OK.
Donc, Michel Bergeron.
Michel Bergeron.
Et est-ce que vous lui parlez encore, Michel Bergeron? Parce qu'on aimerait avoir peut-être un peu d'informations.
À toutes les fois où je lui ai parlé, c'était l'été passé, il est venu d'ailleurs à Bon Baiser, puis j'aimerais tellement ça l'avoir. Prenez ça comme une invitation officielle, Michel, si vous m'entendez, une semaine à Bon Baiser. Écoute, ce serait le bout du bout.
Écoutez, on va faire un deal avec lui. Il vient à Bon Baiser, puis il vient au Spornographe.
J'adorerais ça.
Bonne idée. France Baudouin, à chaque semaine, quand on a un invité ici à l'émission, nos internautes sur le site Internet du Spornographe écrivent des questions destinées à l'invité. Et cette semaine, le hasard fait bien les choses, on en a encore. Donc, cette semaine, il y a Rodrigue Haché qui vous pose cette question-là.
Oui.
Approuvez-vous la décision de Maxime Lapierre de laisser le soin à la femme de Mathieu Dandonneau de redécorer sa maison à heure de grande écoute sur un réseau qu'on nommera pas?
Écoute, c'est son choix, puis moi, ces histoires de vie privée-là, tu sais, que quelqu'un décide de parler de sa vie ou pas dans un magazine ou pas, puis où on décide de le faire, ça, c'est vraiment à chacun. Mais c'est sûr que personnellement, moi, j'aurais de la difficulté à faire rentrer la caméra dans ma maison, à venir décorer. C'est sûr que, écoute, c'est chacun son choix, mais personnellement, moi, je vivrais très mal
avec la
chose.
Parce qu'à quelque part, à partir de maintenant, ou en fait, quand la maison sera finalement redécorée, Maxime Lapierre ne pourra plus dire « je prends un bain » sans que tous les gens sachent comment il prend son bain à quelque part.
Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que Maxime Lapierre ne soit pas échangé d'ici la fin de la saison.
Ça,
parce que...
c'est sûr que ça pourrait en faire deux à décorer.
Maintenant, il y a Patrick Lapratte qui vous demande « comment va votre poule, France? »
Ça, pas de poule.
Non? Bon.
Non, désolé, ça, je ne suis pas dans le poule. Non, vraiment.
Je m'en doutais.
Non, mais pas quand
même. On en organisera un l'année prochaine du Spornographe.
J'aimerais ça.
Christiane Charette voulait y participer cette année.
C'est vrai?
À la poule, c'est vrai, sauf que c'était la seule participante, donc elle aurait été dernière et première. Mais l'année prochaine, par exemple, on y pense.
Donc, une dernière question. Il y a Hug qui, visiblement, est bien informé parce qu'il sait qu'on occupe, nous, les gens du Spornographe, temporairement, vos bureaux à Bon Baiser de France.
Oui.
Donc, il vous demande, Mme Baudouin, qu'est-ce que ça vous fait de prêter vos locaux à de jeunes débutants?
Bien, c'est les jeunes débutants, non, mais les Spornographes, écoute, c'est comme la consécration.
Oh,
c'est vraiment l'honneur ultime,
ça va être
suprême.
Dans l'émission, je vous le confirme.
Ça, ça ne sera pas coupé au montage, clair.
Nous ferons honneur à votre micro-ondes.
Oh.
Besoin de nettoyage un peu quand même.
On va tout faire ça avant que vous arriviez. Vous reveniez, on vous le promet.
Oh, c'est gentil. Et puis, vous pouvez rester pour l'été si vous voulez le nettoyer tout l'été.
OK. On gardera ça. Madame Baudouin, je vous remercie énormément.
Mais comment
pour votre
ça se fait qu'on n'a même pas parlé des Stachnies?
Ben écoutez, c'est les Nordiques.
Une prochaine fois,
ça n'existe presque plus.
Oh, ouais.
Ben, on pourrait parler de Paul, ça, moi je serais d'accord.
Paul
mais une Stachny, prochaine fois,
oui, Paul, pas Stachny.
Mais il est un peu blessé, je pense.
Oh non.
Mais en tout cas, pour les auditeurs, sachez
mais connaissez-vous votre hockey?
Oui.
Comment ça se fait qu'on vient de parler des Nordiques, mais rien des Stachnies?
Ben parce qu'elle n'existe plus, cette équipe, Madame Baudouin.
On retient que l'essentiel.
Merci, bonne fin de soirée.
Tant que ça parle de Canadiens, nous autres, on comprend. Sportnographe, la référence.
Louise Lapparé, bonjour. Quand on parle de pêche, on parle souvent d'histoire de pêche. Est-ce que les femmes ont les mêmes genres d'histoire de pêche?
Je pense qu'on a à peu près les mêmes histoires, mais nous autres, on ne rajoute pas 8 pieds. Et puis, on est généralement plus près de la vérité que les gars. Je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas une indexation du coût de la vie à chaque année puis que ça ne rallonge pas 10 pouces. Mais, en général, nos histoires sont aussi vraies, pas mal plus peut-être que les hommes.
Pour le Sportnographe, Jacinthe Simard, pas vraiment en direct du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche.
J'ai à peine eu le temps de respirer tellement cette émission était drôle. Effectivement. Mais comme on ne peut pas toujours être drôle, je passe la rondelle à Paul Meilleur-Aucoin, qui a certainement reçu des centaines de courriels à notre question du jour.
Oui, 4 exactement. Et parmi ceux-ci, retenons-en 2. Mais avant, rappelons la question quand même. Pogner le poteau, c'est l'équivalent de quoi dedans la vie quotidienne? D'abord, il y a le 2 de pique qui dit « Dans la vie quotidienne, je sais pas, mais ça doit être le même feeling que de se faire déculoter par Richard Zetnik à 1 contre 1. » Voilà. Ensuite, il y a Even Steven, un Canadien anglais probablement, qui répond « C'est l'équivalent de pogner un ticket de vitesse en allant travailler et en même temps de gagner le moitié-moitié au bureau. »
Oui, c'est une très bonne réponse. D'accord, merci, moi, Paul. Écoutez, en parlant de courriel, j'aimerais vous demander votre collaboration, chers auditeurs, pendant quelques instants, pour une petite expérience scientifique qui a pour but, en fait, de construire notre propre indicateur de mesure de l'audimat.
C'est mon idée, ça.
Oui, bonne idée d'ailleurs. Que vous soyez à Winnipeg, Whitehorse, Iqaluit, Sainte-Julie ou Montréal, que vous nous écoutiez en direct, en reprise ou en balado-diffusion, écrivez-nous maintenant.
Maintenant.
À sportnographe@radio-canada.ca afin que l'on puisse faire le grand total de tout ce beau monde qui nous écoute.
J'entends les serveurs surchauffer.
Absolument. Piquette, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on suit le parcours du film L'Homme Panachuit au Festival de Cannes et on estime la cote de Robert Lang au jeu NHL 2010.
J'ai déjà hâte, mais en attendant, venez nous lire sur notre site au www.sportnographe.com, sportnographe avec un T, ou encore à sportnographe.radio-canada.ca.
Ne manquez surtout pas Macadam Tribu dans quelques minutes, qui va parler des radios communautaires au Kenya, la glissade psychédélique de Syd Barrett et des voyages extrêmes soleil, mer et guerre. Écoutez, en terminant, je tiens à remercier tous nos collaborateurs, notre réalisateur co-animateur Jean-Philippe Plot, son complice Jean Gagnon, à notre coiffeur, concepteur co-animateur Olivier Niquette, Martin Boulanger à la technique, Christian Ferland au montage et à notre ami de toujours, Mario.
Salut Mario, et bien sûr, sans oublier Jean-Philippe Vautier à l'animation. Bonne deuxième période de Canadiens à ceux qui écoutent le match. Et à la semaine prochaine, mesdames, messieurs.
Bonjour, pèsez donc sur le 4.
Oui, c'est fait. Il y a beaucoup de plantes dans votre bureau. Il y en a d'ailleurs 2 qui sont mortes. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial avec ça? Ils sont moins verts qu'ils l'étaient.
C'est parce que c'était votre responsabilité. C'était une garde partagée de la plante.
Moi, je leur parle tous les jours.
Mais moi aussi, je leur parle comme tassez-vous.
Quel est le recours?
Je pense qu'on est rendu au 4e, on va sortir.
OK, bye, merci.